Chapitre 19. Comment les sauvages se traitent dans leur maladie, ensemble de leurs sépultures et funérailles, et des grands pleurs qu'ils font après leur mort. Pour mettre fin à parler de nos sauvages de l'Amérique, il faut savoir comment ils se gouvernent dans leur maladie et à la fin de leur jour, c'est-à-dire quand ils sont prochains de leur mort naturelle. S'il advient donc qu'aucun d'eux tombe malade, après qu'il aura montré et fait entendre où il sent son mal, soit au bras, jambes ou autre partie du corps, cet endroit-là sera sucé avec la bouche par l'un de ses amis, et quelquefois par une manière d'abuseur qu'ils ont entre eux nommé pagé, qui est à dire barbier ou médecin, autre que les Caraïbes dont j'ai parlé traitant de leur religion, lesquels non seulement leur font à croire qu'ils leur arrachent la douleur, mais aussi qu'ils leur prolongent la vie. Cependant, outre les fièvres et maladies communes de nos Américains, à quoi, comme j'ai touché ci-devant, à cause de leur pays bien tempéré, ils ne sont pas si sujets que nous sommes par de ça, ils ont une maladie incurable qu'ils nomment pian, laquelle, combien qu'ordinairement elles se prennent et proviennent de la paillardise, j'ai néanmoins vu avoir à de jeunes enfants qui en étaient aussi couverts qu'on en voit par de ça être de la petite vérole. Mais au reste, cette contagion se convertissant en pustules plus larges que le pouce, lesquelles s'épandent par tout le corps et jusqu'au visage, ceux qui en sont entachés en portent aussi bien les marques toute leur vie que font les vérolés et chancreux de par de ça de leur turpitude et vilainie. Et de fait, j'ai vu, en ce pays-là, un truchement natif de Rouen, lequel s'étant vautré en toutes sortes de paillardises parmi les femmes et filles sauvages, en avait si bien reçu son salaire, que son corps et son visage étant aussi couverts et défigurés de ses pions que s'il eût été vrai ladre, les places y étaient tellement imprimées qu'impossible lui fut de jamais les effacer. Aussi est cette maladie la plus dangereuse en cette terre du Brésil. Ainsi, pour reprendre mon premier propos, les Américains ont cette coutume que, quant au traitement de la bouche de leurs malades, si celui qui est détenu au lit devait demeurer un mois sans manger, on ne lui en donnera jamais qu'il n'en demande. Même, quelque grave que soit la maladie, les autres qui sont en santé, suivant leur coutume, ne laisseront pas pour cela, buvant, sautant et chantant, de faire bruit autour du pauvre patient, lequel aussi, de son côté, sachant bien qu'il ne gagnerait rien de s'en fâcher, aime mieux avoir les oreilles rompues que d'en dire mot. Toutefois, s'il advient qu'il meure, et surtout si c'est quelque bon père de famille, la chantrerie étant soudain tournée en pleurs, il lamente de telle façon que si nous nous trouvions en quelque village où il y eut un mort, où il ne fallait pas faire état d'y coucher, on ne se pas attendre de dormir la nuit. Mais principalement, c'est merveille d'ouïr les femmes, lesquelles, braillant si fort et si haut que vous diriez que ce sont hurlements de chiens et de loups, font communément tel regret et tel dialogue. « Il est mort !» diront les unes en traînant leur voix. « Celui qui était si vaillant et qui nous a tant fait manger de prisonniers !» Puis les autres, en éclatant de même, répondront « Oh, que c'était un bon chasseur et un excellent pêcheur !» Ah, le brave assommeur de Portugais et de Margaïa, desquels il nous a si bien vengés, dira quelqu'une entre les autres. Tellement que, parmi ces grands pleurs, s'intitant à qui fera le plus grand deuil, et, comme vous voyez en la présente figure, s'embrassant les bras et les épaules l'une de l'autre, jusqu'à ce que le corps soit ôté de devant elle, elles ne cesseront, en déchiffrant et récitant par le menu tout ce qu'il aura fait et dit en sa vie, de faire de longues kyrielles de ses louanges. Bref, à la manière que les femmes de Béarn, ainsi qu'on dit, faisant de vice vertu en une partie des pleurs qu'elles font sur leur mari décédé, chantent « la miamon, cararidan, œil de splendon, camalogué, belle dansadou, lomibalen, lomesbourbat, matidepes, fortarobeit », c'est-à-dire « mon amour, visage riant, œil de splendeur, jambes légères, beau danseur, le mien vaillant, le mien éveillé, matin debout, fortaroli », voire « comme aucun disent que les femmes de Gascogne ajoutent « Vere, vere, olebet renagadon, olebet iwagadonker », c'est-à-dire « Hélas, hélas, Oh, le beau rogneur, oh, le beau joueur qu'il était! Ainsi en font nos pauvres américaines, lesquelles, au surplus, au refrain de chaque pause, ajoutant toujours « il est mort, celui duquel nous faisons maintenant le deuil ». Les hommes, leur répondant, disent « hélas, il est vrai, nous ne le verrons plus jusqu'à ce que nous soyons derrière les montagnes, où ainsi que nous enseignent nos Caraïbes, nous danserons avec lui », et autres semblables propos qu'ils ajoutent. Or, ces cérémonies durant ordinairement demi-jour, car ils ne gardent guère leur corps mort davantage, après que la fosse aura été faite, non pas longue à notre mode, mais ronde et profonde, comme un grand tonneau à tenir le vin. Le corps, qui aussi incontinent après avoir été extirpé, aura été plié, les bras et les jambes liés alentour, sera ainsi enterré presque tout debout. Même, comme j'ai dit, si c'est quelque bon vieillard qui soit décédé, il sera ensépulturé dans sa maison, enveloppé de son lit de coton, voire on enterrera avec lui quelques colliers, plumasseries et autres besognes qu'il voulait porter quand il était en vie. Sur lequel propos on pourrait allayer beaucoup d'exemples des anciens qui en usaient de cette façon, comme ce que Joseph dit que fut mis au sépulcre de David, et ce que les histoires profanes témoignent de tant de grands personnages qui, après leur mort, ayant été ainsi parés de joyaux fort précieux, le tout est pourri avec leur corps. Et pour n'aller plus loin de nos Américains, comme nous avons ici allégué ailleurs, les Indiens du Pérou, terre continente à la leur, enterrant avec leurs rois et caciques grande quantité d'or et de pierres précieuses, plusieurs Espagnols, de ceux qui furent les premiers en cette contrée-là, recherchant les dépouilles de ces corps morts jusqu'au tombeau et crotte où ils savaient les trouver, en furent grandement enrichis. De manière qu'on peut bien appliquer à tel avaricieux ce que Plutarque dit que la reine Sémiramis avait fait engraver en la pierre de sa sépulture, à savoir par le dehors, tourné en vers français, comme s'ensuit. Quiconque soit le roi de Pécune indigent, ce tombeau ouvert prenne autant qu'il veut d'argent. Puis celui qui l'ouvrit, y pensant trouver grand butin, au lieu de cela vit cette écriture par le dedans. Si tu n'étais méchant, insatiable d'or, jamais n'eussent fouillé des corps morts le trésor. Toutefois, pour retourner à nos Toyupinambous, depuis que les Français ont hanté parmi eux, ils n'enterrent pas si coutumièrement les choses de valeur avec leurs morts qu'ils souhaitaient faire auparavant. Mais ce qui est beaucoup pire, voyez la plus grande superstition qu'il se pourrait imaginer en laquelle ces pauvres gens sont détenus. Dès la première nuit d'après qu'un corps, à la façon que vous avez entendue, a été enterré, eux, croyant fermement que si Einan, c'est-à-dire le diable en leur langage, ne trouvait d'autre viande toute prête auprès, qu'il le déterrerait et mangerait, non seulement ils mettent de grands plats de terre pleins de farine, volailles, poissons et d'autres viandes bien cuites avec de leur breuvage d'icaouin sur la fosse du défunt, mais aussi jusqu'à ce qu'ils pensent que le corps soit entièrement pourri, il continue à faire tel service vraiment diabolique. De laquelle erreur, il nous était tant plus malaisé de les divertir que les truchements de Normandie qui nous avaient précédés en ce pays-là, à l'imitation des prêtres de Baal desquels il est fait mention en l'écriture, prenant de nuit ces bonnes viandes pour les manger, les y avaient tellement entretenus, voire confirmés, que quoique par l'expérience nous leur montrassions que ce qu'ils mettaient le soir s'y retrouvait le lendemain, à peine pûmes-nous persuader le contraire à quelques-uns. Tellement qu'on peut dire que cette rêverie des sauvages n'est fort différente de celle des rabbins docteurs judaïques, ni de celle de Pausanias. Car les rabbins tiennent que le corps mort est laissé en la puissance d'un diable qu'ils nomment Zabel, ou Azazel, lequel ils disent être appelé prince du désert au Lévitique. Et même, pour confirmer leur erreur, ils détournent ces passages de l'Écriture où il est dit au serpent « Tu mangeras la terre tout le temps de la vie. » Car, disent-ils, « Puisque notre corps est créé du limon et de la poudre de la terre, qui est la viande du serpent, il lui est sujet jusqu'à ce qu'il soit transmué en nature spirituelle. » Pausanias, semblablement, raconte d'un autre diable nommé Eurynomus, duquel les interpréteurs des Delphiens ont dit qu'il dévorait la chair des morts et n'y laissait rien que les os, qui est en somme, ainsi que j'ai dit, la même erreur de nos Américains. Finalement, quant à la manière que nous avons montrée au chapitre précédent, les sauvages renouvellent et transportent leurs villages et autres lieux, mettant sur les fosses des trépassés de petites couvertures de cette grande herbe qu'ils nomment Pindo. Non seulement les passants par ce moyen y reconnaissent forme de cimetière, mais aussi quand des femmes s'y rencontrent, ou autrement quand elles sont par les bois, si elles se ressouviennent de leur feu mari, ce sera, faisant les regrets accoutumés, à hurler de telle façon qu'elles se font ouïr à demi lieue. Par quoi, les laissant pleurer tout leur sou, puisque j'ai poursuivi les sauvages jusqu'à la fosse, je mettrai ici fin à discourir de leur manière de faire.